grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast sur l'application France Inter. Et ce matin, une émission Jukebox à la veille de la fête de la musique. On s'intéresse à ces chansons qui accompagnent nos vies. Nous avons tous en tête un morceau qui a profondément marqué les grands moments de notre histoire personnelle. Premiers amours, vacances, naissances, mariages, ruptures amoureuses, crises du milieu de vie, les ritournelles rythment les petits et grands épisodes de notre série préférée, notre vie. Comment expliquer l'attachement à certaines chansons? Pourquoi les morceaux de notre adolescence sont-ils si importants quand on devient adulte? Pourquoi les souvenirs musicaux sont-ils aussi puissants? Pourquoi les chansons accompagnent-elles avec tant de justesse nos existences? Nous verrons également que certaines paroles peuvent nous faire philosopher sur la question du bonheur, par exemple. Avec nous ce matin, le journaliste de France Info, Bertrand Dical, la professeure de philosophie Marianne Chaillant, et avec notre camarade de l'émission Very Good Trip, Mishka Sayas, mon chouchou, avec nous pour mon plaisir personnel. Et puis nous aurons au téléphone le passionnant Emmanuel Bigan, chercheur en psychologie cognitive au CNRS. Et vous, dites-nous quelles sont les chansons qui vous ont vraiment accompagné tout au long de votre vie. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de notre émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Bonjour à tous nos invités, Bertrand Dical, vous publiez chez First la BO de votre vie, 500 titres pour accompagner l'existence en musique. Marianne Chaillant, vous êtes l'auteur de la playlist des philosophes. Et Mishka Sayas, vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence, Le Dictionnaire du Rock. Et vous publiez Very Good Trip, le rock au pays des rêves, coédité par France Inter et Le Mot et le reste. Bertrand Dical, nous avons tous en tête des morceaux essentiels qui ont profondément marqué notre histoire personnelle.
Oui, c'est à la fois une histoire personnelle, et comme nous sommes des millions à parler la même langue, à partager la même culture, c'est aussi une histoire collective. C'est-à-dire que Ne me quitte pas, par exemple, que l'on soit en pleine histoire d'amour ou en pleine fin d'histoire d'amour, que l'on quitte ou que l'on soit quitté, de toute façon, dès qu'il y a une histoire de rupture qui nous approche, on a Ne me quitte pas en tête. On peut pas faire autrement. Alors parfois, on est vraiment dans la chanson. On supplie, laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. On va jusqu'à dire des choses comme ça. Et puis, par moments, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être ce personnage, on n'a pas envie d'être cette chanson. Et en fait, les chansons, malgré nous, elles nous accompagnent. Et quand on a une passion en musique, quand on a une passion pour un auteur, quand on a une passion pour un genre, quand on a une passion pour... Quand on a la nostalgie d'un moment particulier de notre vie, la chanson devient forcément beaucoup plus importante. Et c'est vrai qu'on... Parfois, dans nos vies, de manière plus ou moins secrète, il y a des choses qu'on décide, qu'on fait, qu'on choisit à cause d'une chanson, à cause d'un moment, d'une phrase dans une chanson.
Mishka Sayas.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que ce que dit Bertrand est très simple, c'est que la parole poétique, rythmée et mélodieuse est une révélation. Et que on ne peut pas oublier cette première fois où on a entendu une voix qui vous a révélé à vous-même. Et vous avez peut-être en effet prendre une décision ou refuser d'en prendre une. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement vaste. Je sais pas partir.
Tiens, si on écoutait Mishka Sayas, c'est un extrait d'un titre phare de votre jeunesse.
Oui. I may not always love you,
but long as there are stars above you. Bah oui. Alors les Beach Boys, God Only Knows, ça ravive quel souvenir cette chanson des Beach Boys, souvent considérée comme l'une des plus belles chansons pop du monde.
Oui, bah c'est Paul McCartney qui a dit ça, il sait de quoi il parle. Écoutez, j'ai découvert de manière complètement décalée cette chanson parce que c'était 10 ans après sa parution. C'était en 76-77, en pleine période punk, c'est-à-dire un moment où vraiment j'avais l'impression que la musique était en proie à un séisme et qu'il fallait choisir son camp. Et moi, j'ai découvert ce groupe qui était complètement anachronique, désuet, objet de ridicule pour beaucoup, enfin des types avec des grandes dents et des chemises rayées. Bon, eh bien, cette chanson avait une... comment expliquer ? Quelque chose de triste, de mélancolique, qui était en contradiction apparente avec ce que l'adolescence était censée être, c'est-à-dire l'âge du sport, du dynamisme, des rencontres, l'entrée dans l'âge sérieux, enfin, où vraiment on se met à faire des choses. Et pour moi, c'était quelque chose qui presque m'encourageait à ne pas participer à la vie. Curieusement, où je comprenais que la vieillesse allait arriver, la mélancolie, la rupture, le déchirement, c'était l'adieu à l'enfance. Comme quoi, vous savez, il y a des chansons qui vous poussent à agir et d'autres qui vous poussent à contempler. Et ça a peut-être révélé ma nature contemplative.
Et pourquoi ce titre de Georges Brassens est-il si important pour vous ?
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage.
Moi, à titre personnel, c'est une chanson qui m'émeut parce que ça me rappelle une professeure de français qui me faisait écouter ça au collège.
Écoutez, à chaque fois que j'entends cette façon qu'il a d'attaquer ce texte merveilleux, c'est une musique de Georges Delerue hein, aussi, je trouve que c'est tellement différent de ce à quoi on associe Brassens, qui est un peu plus sarcastique parfois. Il y a des chansons très tendres, bien sûr, mais là, il y a... Je sais pas, quelque chose qui est au-delà de la joie et de la tristesse, qui est encore une fois quelque chose d'aérien. C'est comme un vieil homme qui se rappelle sa jeunesse. Et moi, j'ai découvert ça alors que j'avais 17 ou 18 ans. Et c'est comme si j'étais à la fois un jeune homme et un vieil homme. Et c'est...
Je comprends totalement ce que vous ressentez, Bertrand Dical.
C'est sûr qu'il y a dans cette chanson quelque chose qui tient de la mélancolie absolue et qui est aussi le sortilège de Brassens. C'est-à-dire que Brassens, alors nous qu'avons grandi avec la chance d'avoir de temps en temps, enfin dans les années 70, sortent les deux derniers albums de Brassens, donc il y avait du nouveau Brassens qui arrivait, ce qui était quand même quelque chose de troublant. Mais c'est à la fois quelqu'un qui est, malgré son âge, malgré son côté totalement hors du temps, il est de plein pied. Il est peut-être toujours, pour des gamins d'aujourd'hui, il est peut-être toujours de plein pied. C'est un bon oncle. Moi, je dis toujours, j'ai été élevé par mon père, ma mère et Georges Brassens. Et c'est quelqu'un qui est dans nos vies.
C'était comme un confident. Et je trouve que là, il a presque la voix d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose... C'est-à-dire que si j'avais pu chanter quand j'avais 17 ans, je pense que j'aurais chanté comme ça.
Et puis, il nous met la main sur l'épaule.
Oui.
Alors, ça, c'est une chanson qui a marqué mon adolescence, un voyage en bus en Italie en 1990, quand j'avais 15 ans, et on écoutait en boucle les Beatles. Avec nous en ligne, Emmanuel Bigan, chercheur en psychologie cognitive au CNRS et l'auteur des bienfaits de la musique sur le cerveau. Emmanuel Bigan, comment expliquez-vous que les morceaux qui ont accompagné notre adolescence, notre jeunesse, sont-ils si importants quand on devient adulte ?
Oui, bonjour. Alors, une chose qu'il faut dire, c'est que la chanson, contrairement à ce que disait Gainsbourg, c'est pas du tout un art mineur, en tout cas pas du tout pour notre cerveau. C'est un petit joyau qui accompagne nos vies de la naissance, si l'on pense à la chanson d'Henri Salvador, la chanson douce que lui chantait sa maman jusqu'à la fin de la vie. Et vos invités, d'ailleurs, ont donné des tas d'exemples de cet accompagnement. Ce qui est génial avec la chanson, pour répondre à votre question, c'est qu'elle est simple. Sans prétention, elle est courte, elle est facile à stocker en mémoire avec ses alternances couplets-refrains, et elle contient presque tous les éléments en fait qui vont séduire notre cerveau. Il y a la musique bien sûr, il y a la voix, on a des neurones spécialement dédiés à la reconnaissance de la voix, et il y a aussi la capacité à stocker les éléments du contexte. Quand vous pensez à des chansons qui vous ont ému, vous avez des éléments de contexte qui vous reviennent, vous étiez dans un bus et vous écoutiez les Beatles par exemple, etc. Donc tout ça sont des éléments extrêmement forts qui vont rester stockés dans notre mémoire pendant très très longtemps.
Peut-on dire que la nostalgie musicale constitue une sorte de tunnel spatio-temporel neurologique ?
Là, c'est des expressions un petit peu fortes. Je crois que c'est la notion de nostalgie, elle est un peu compliquée. On va dire la mémoire musicale est très forte. Il y a des régions du cerveau qui codent ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, et la musique a un accès privilégié à ces régions. Et c'est intéressant de savoir que ces régions-là, notamment dans le cortex préfrontal, sont les régions qui sont les plus résistantes à la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que même avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, vous pouvez réveiller la mémoire avec la musique. musique. Alors évidemment, chez Le Sujet Normal, ça reste très présent. Il y a des éléments de nostalgie. C'est sûr que je pense pas que ça soit juste la fonction de la chanson de vous plonger dans la nostalgie, mais ça réveille des éléments de votre vie.
Et justement, pourquoi pleure-t-on quand on écoute un morceau de sa jeunesse? Que se passe-t-il d'un point de vue cérébral?
Alors, le réseau de qui est activé dans le cerveau hein, par les chansons familières, on le voit quand on fait entendre des chansons familières au scanner, il faut que vous mesuriez à quel point le cerveau est sensible à ces chansons qui ont peuplé notre histoire. Il vous faut moins de 100 millisecondes pour identifier qu'une chanson vous est familière. Vous vous rendez compte, 100 millisecondes, c'est un tout petit burst de son. Et ces régions sont très vastes et impliquent évidemment les régions des émotions. La mémoire et les émotions sont très liées dans le cerveau. Et donc, lorsque vous entendez ces chansons, ça réveille pas que votre mémoire cognitive, si je peux dire, ça réveille votre mémoire émotionnelle avec tous les éléments de contexte de vie qui sont associés à cette chanson. Donc c'est quasiment impossible de résister à cela, quoi.
Marianne Chaillon, je rappelle que vous êtes professeure de philosophie. Sur ces chansons qui rythment nos vies avec autant de force et parfois nostalgie.
Moi, j'ai bien aimé votre expression de tunnel spatio-temporel. Et finalement, j'ai l'impression que la musique, comme les goûts, comme les odeurs, offre ce que Proust appelait l'occasion de réminiscence. Et je me disais que c'est vrai qu'une chanson, au fond, elle nous ramène une mémoire dont nous n'avons plus conscience que nous la possédions. Elle ramène la chair du souvenir. Quand on se rappelle de notre passé, finalement, on se rappelle de la forme extérieure du souvenir, d'un souvenir que nous avons en conscience, qui a peut-être été altéré d'ailleurs par le fait qu'on l'ait rappelé à nous plusieurs fois. Et en revanche, la musique amène la chair oubliée, et ramène des odeurs. Et on trouve chez Proust des très belles pages sur la force de la musique, justement, qui permet de rappeler des trésors oubliés.
Krishka Sayas.
Ce que vous dites est très vrai, et je vais l'illustrer. Je vous parlais de cette chanson des Beach Boys que j'ai découverte quand j'avais 17 ans. Eh bien, quand j'entends, même pas les premières mesures, mais peut-être enfin les 100 millisecondes, voilà, dont parlait votre invité, je revois la chambre où j'étais, le carreau, le temps hivernal, glacial et magnifique, où tout était suspendu parce qu'il faisait très froid, il y avait c'était un temps anticyclonique, je me souviens, ça bougeait pas, c'était très sec, et cette espèce d'immobilité qu'il y avait dans la pièce, il y avait cette espèce d'équilibre étrange entre l'irruption d'une mélodie céleste et cette espèce de tristesse de cette chambre vide, dans cette maison silencieuse où il y avait personne, en tout cas j'avais l'impression qu'il y avait personne, c'était comme ça, et voilà, je pourrais le décrire, le peindre, le photographier, je sais pas comment vous dire.
Emmanuel Bigand.
Oui, par rapport à Proust et par rapport à aux mémoires olfactives qui sont aussi très puissantes, la mémoire musicale a cet avantage d'être beaucoup plus discriminante. C'est-à-dire que vous pouvez encoder de façon distincte beaucoup plus de souvenirs avec la musique que vous ne pourriez le faire avec la Madeleine de Proust. Vous pouvez encoder des odeurs, des saveurs même, de façon à très très long terme, mais il n'y a pas le même pouvoir de différenciation. Donc en fait, on a un album d'événements de vie beaucoup plus grand avec la grâce aux chansons et à la mémoire musicale qu'on ne peut avoir avec les autres modalités sensorielles. Donc ça, c'est un des faits qui est très marquant avec la chanson.
Bertrand Dical.
Il y a aussi quelque chose, c'est que chaque fois qu'on se remémore une chanson, on rajoute quelque chose. Oui. Et parfois, une chanson qui a un souvenir d'enfance, et un souvenir d'enfance, puis le fait que dans l'adolescence, à tel moment de crise, on a utilisé cette chanson pour survivre à telle crise, oui. Puis plus tard, et en fait, il y a des chansons comme ça qui peuvent paraître anodines. Par exemple, une chanson douce que me chantait ma maman, qui est peut-être une des chansons d'enfance les plus communes à tous les Français. Je pense que tous les Français, à un moment ou à un autre, ont un souvenir avec cette chanson, même si ce souvenir est à 70 ans quand ils le font écouter pour la première fois à leur petit-fils. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la musique, surtout avec la musique enregistrée, c'est qu'elle est inaltérable. C'est-à-dire que God Only Knows, on aura toujours exactement les mêmes arrangements pour des souvenirs, des sensations, des émotions qui, chez nous, s'enrichissent perpétuellement.
Mishka Sayas.
Oui, mais vous savez, il m'est arrivé d'utiliser des chansons comme des remèdes, comme des médicaments. C'est-à-dire, moi, je suis sujet, comme beaucoup de gens, à la déprime. c'est très ancien. Et donc, il m'est arrivé, quand ça n'allait pas bien, et même en cas de migraine, me coucher dans mon salon, sur mon canapé, et de mettre une chanson qui m'avait fait du bien à un autre moment de ma vie. Et c'est arrivé, vraiment, que je vous dire, ça fasse l'effet mieux qu'à Doliprane. Vraiment.
Emmanuel Bigon.
Oui, alors la chanson, elle capture du vrai. Elle est toute simple, elle n'a pas l'air comme ça d'être du grand art, mais elle capture du vrai, et ce vrai, il vous est utile parce qu'il vous parle de votre identité. Et en fait, vous construisez un personnage sonore dans votre mémoire qui représente des éléments de ce que vous êtes, et effectivement, lorsqu'on a des périodes dans la vie où l'identité, sa propre identité est un peu secouée, des déceptions professionnelles, amoureuses, etc., ou même des maladies, on a besoin de retrouver les éléments qui ont fait ce que nous sommes. Et là, la chanson et le répertoire de chansons est d'une utilité considérable. Donc, on travaille avec des malades à l'hôpital, qu'ils soient Alzheimer ou autre. On travaille beaucoup sur la sorte de renarcissisation de la personne, si je parle de cette façon-là, mais simplement pour aider à retrouver son identité grâce aux chansons. C'est absolument magique qu'on ait un outil comme la chanson qui nous permette de faire ça.
Mishka Sayas, la chanson qui vous fait passer la migraine, c'est quoi ?
Écoutez, c'est souvent des chansons très tristes. Il m'est arrivé de passer Joy Division, les balades, les chansons planantes, lentes et sinistres, et ça me fait du bien. Oui.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous habitez Aubervilliers. Quelle est la chanson qui a marqué votre vie à jamais ?
Alors moi, c'est Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.
Vous savez qu'on va l'écouter tout de suite. On va écouter juste un morceau et on vous reprend. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Alors Caroline, expliquez-nous pourquoi cette chanson est aussi importante pour vous.
Alors, c'est mon premier baiser.
Évidemment.
Et contrairement à vos invités, j'ai aucune image puisque j'avais les yeux fermés, bien sûr.
Mais il reste la musique.
Il reste la musique et vous avez coupé avant les coups de tonnerre, mais c'est juste à ce moment-là que c'est arrivé.
Alors attendez, on va le faire. On va y arriver, vous allez voir. Ça va arriver, on écoute. Et là, le baiser, voilà. Caroline.
Voilà. Et c'est là que je suis devenue une femme, avec des guillemets, hein. J'avais 12 ans. C'était mes premières vacances loin de mes parents et pas chez ma grand-mère. C'était en Angleterre. C'était bien sûr avec un autre adolescent qui venait en séjour linguistique. Il était italien. Il parlait aussi mal anglais que moi. Enfin bon, voilà. Et c'est la musique qui me refait penser avec tendresse à la petite fille que j'étais et qui est devenue une grande fille, on va dire, et à défaut de devenir une adulte à ce moment-là.
Et la langue universelle, c'est évidemment la langue musicale qui vous a rassemblé. Merci beaucoup Caroline pour votre témoignage. Et Julie nous dit sur la page Facebook, moi, la chanson qui a marqué ma vie, c'est Hello de Lionel Richie. Premier slow, premiers émois amoureux. Et j'ai beau avoir 44 ans, cette chanson me fait toujours un petit quelque chose lorsque je l'entends par hasard à la radio. Allez, dites-nous quelle est la chanson qui a marqué votre vie, votre jeunesse, votre adolescence, des moments importants de votre vie. 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Alexis Rivière, Claire Destacan, Théodène Matt, Manon Rax et Philippine Rouvière m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Hey Lily, raconte-nous.
When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here?
voir la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots qui tombent à l'eau. Elle dit que sa vie se réduit à un petit étui. Elle a plus la pupille qui brille, qui scintille et qui pétille. Assis par terre et pas très fière de sa petite carrière. Loin de ce qu'elle rêvait hier, solitaire trentenaire. It's sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Elle voit la vie en duo, voit la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots qui tombent à l'eau. It's true how society says that life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Elle voit la vie en duo, voit la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots, mais des mots qui tombent à l'eau.
Lily Allen et Ours 22.
Téléphone, Lalanne, Renault, téléphone.
Grand bien vous fasse.
J'adorais Laurie parce que bah, quand j'étais enfant comme tout le monde, hein, c'était vraiment c'était l'idole. Quoi.
Sur France Inter.
10h30 et ce matin on s'intéresse à toutes ces chansons qui accompagnent nos vies avec le journaliste Bertrand Dical, la philosophe Marianne Chaillan et le producteur de l'émission Very Good Trip, Mishka Sayas. Oui je sais, je prononce très mal l'anglais, beaucoup moins bien.
Mishka Sayas. Je sais, tout le monde se fout de ma gueule à cause de ça.
Mais non. Ah vous aussi vous êtes mauvais, oui c'est vrai.
Voilà, c'est ça.
Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à sans souleur, hein, à vous.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste.
Je crois avoir retenu que vous souhaitiez...
Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde.
Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... Ne me quitte pas... Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien, sans amour, on n'est rien du tout.
Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant. J'en reviendrai.
Bertrand Dical, c'est très juste hein, ce que raconte Fanny Ardant dans La femme d'à côté de Truffaut.
Oui, que les chansons disent la vérité. Et en plus, souvent, quand on les écoute de près, c'est-à-dire quand on a le cœur ouvert, la conscience ouverte, et c'est vrai que ce moment dans La femme d'à côté est intéressant parce qu'on sent bien le désert de sa vie, le trouble dans lequel elle est. Et à ce moment-là, les chansons tombent. Et c'est aussi pour ça, tombent dans une conscience qui est prête à les accueillir. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'à l'adolescence et dans l'enfance, les chansons marquent autant. J'ai lu plein de livres, j'ai rencontré plein de gens, j'ai écouté beaucoup de pasteurs dans ma vie, mais je serai toujours marqué par une phrase des Beatles. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Traduisez.
Et à la fin, l'amour que vous recevez est égal à l'amour que vous avez donné. C'est à la fin de l'album Abbey Road, le dernier album des Beatles. Mais oui. J'avais 12-13 ans, j'écoutais ça, oui. je m'aidais du dictionnaire, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les paroles sur Internet traduites directement. Et c'est vrai que effectivement, c'est une vérité qu'on peut retrouver dans la Bible ou qu'on peut retrouver dans des philosophes.
Mishka Sayas. Mais dis très simplement, en fait, plus c'est bête, plus c'est vrai. Vous savez,
ce matin, c'est simple, pas plus c'est bête.
Oui, mais enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce matin, il y avait à l'émission d'Augustin Trapenard, il y avait Jérôme Deschamps qui était invité pour un spectacle sur Bouvard et Pécuchet. Et Flaubert estimait que la bêtise jouait un rôle aussi important que l'intelligence dans la vie. Et j'y crois profondément. Et il y a un passage merveilleux dans Annie Ernaux, dans Passion simple, où tout à coup, donc, elle vit, elle est emportée par une passion pour un homme, et elle dit qu'elle écoute une chanson de Sylvie Vartan, Fatale, c'est fatal, animal, etc. Et elle dit que c'est la vérité la plus profonde sur son état et qu'elle ne peut pas le dire mieux. En fait, une chanson exprime beaucoup plus intelligemment, par sa bêtise, si j'ose dire, ce que vous éprouvez au plus profond de vous-même.
Marianne Chaillon.
Oui, c'est le parti pris de mon livre, La playlist des philosophes, où je me suis tournée en particulier vers les chansons de variété et les chansons les plus suspectes sur le plan intellectuel. Et j'ai essayé de montrer que justement, malgré le mépris, en dépit de ce mépris dans lequel on les tient, elles sont porteuses d'idées qui sont dites simplement. Justement, on a parfois, quand on écoute une chanson, cette joie de découvrir, au hasard d'une écoute, une idée simple et juste, la traduction simple et juste d'une idée qu'on possédait jusqu'alors confusément. Et les chansons, je le mesure en tout cas dans ma pratique d'enseignante, permettent d'être des médiations extraordinaires vers la philosophie la plus classique.
Et Bertrand Dical, vous montrez bien dans votre ouvrage La BO de votre vie que les chansons sont le reflet de nos interrogations existentielles, même avec les ritournelles les plus légères.
Oui, parce que on lit... Ce qui est intéressant avec une chanson, c'est très souvent ce réflexe de dire c'est ce que je sentais, c'est ce que j'étais, c'est exactement mon état d'esprit. Alors effectivement, on peut avoir cette technique dont parlait Mishka tout à l'heure, qui est je suis dans cet état d'âme, je vais choisir cette chanson que je connais dans mon armoire à pharmacie culturelle.
Mais
il y a aussi le choc. Le choc, on est dans un supermarché. Et moi,
j'ai tout le temps cette expérience.
Je me souviens une expérience de gosse dans un supermarché, avoir découvert Mes Emmerdes, chanson d'Aznavour, qui est devenue une espèce d'hymne national des quinquagénaires, qui est une espèce de façon de faire le bilan à mi-vie, de dire oui, tout ça, les problèmes de fisc, les problèmes de filles, les problèmes de pognon, tout ça, c'est pas très important. C'était le bon temps. Et de me dire, je sais pas quel âge j'avais, enfin, d'après le supermarché, puisque je me souviens du supermarché, je devais avoir 12 ou 13 ans, de me dire, ça doit être formidable d'arriver à ce moment-là dans l'existence où on peut dire, c'était le bon temps. Et d'avoir un peu une espèce de cartographie existentielle, une chanson qui vous dit, rassure-toi mon gars, bientôt, tout ce que t'es en train de vivre, ça sera le bon temps.
Ah, c'est prophétique, les chansons. Un jour, je vivrai ça, en bien ou en mal.
Marianne Chaillon.
Ce qu'on dit de la chanson, et qui est très juste, ce pouvoir sublimatoire, ce pouvoir aussi intellectif, qui nous permet de comprendre des idées, qui nous permet de purger des passions, de purger des affects, etc. Je me demande si, au fond, aussi, et sans dénier, ce pouvoir à la musique, c'est pas tout simplement le pouvoir de l'art en général. Et quand je vous écoute parler de vos expériences musicales, moi, je pense à des expériences au cinéma, par exemple. Il y a des films qui m'ont fait ça, qui m'ont accompagné vraiment, qui m'ont fait prendre des décisions. Il y a des romans, il y a des poèmes. Donc, est-ce que c'est pas au fond la fonction de l'art aussi.
Mais Bertrand Dical, vous parliez là d'armoire à pharmacie concernant certaines chansons, certaines. Mais est-ce que elle détient la chanson des vertus cathartiques encore plus fortes que d'autres formes comme le cinéma ou la littérature?
Alors, elle a quelque chose, c'est que de différent de la littérature, c'est qu'elle est immédiate et en même temps, on peut la vivre en même temps qu'autre chose. Et là, je parlais des Emmerdes d'Aznavour que j'ai découvert dans un supermarché. J'étais dans un supermarché. On lit pas un livre dans un supermarché. Et c'est vrai que souvent, elle a cet effet-là. C'est-à-dire qu'on est en train de conduire sa voiture en chialant sur l'autoroute et soudain,
personne ne vous voit.
Radio du service public. Et là, soudain, une énorme chanson qui est exactement parfaite pour ce moment-là. C'est aussi ça un des pouvoirs de la musique, c'est qu'elle nous accompagne au sens propre dans notre quotidien.
Et ce qui est important à souligner, c'est que la musique enjambe l'intellect et le jugement. C'est-à-dire que ça vous prend au dépourvu. Vous croyez que vous n'aimez pas Charles Aznavour, que vous n'aimez pas Johnny Hallyday ou Claude François, et tout à coup, vous écoutez une chanson de Claude François et ça vous prend en traître, si j'ose dire, et vous êtes bouleversé. alors que dans une discussion sur la valeur de la chanson, de tel chanteur, de tel artiste, vous dites oui, Claude François quand même, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec le jugement.
Marianne Chaillon.
C'est vrai, quand j'entends vos arguments, je me dis oui, c'est vrai, mais en même temps, pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux surprises, aux chocs. Je me rappelle d'être entrée dans une salle de cinéma pour le film The Hours. Les premières images, c'est une rivière qui s'écoule, ce très beau film de Stephen Daldry. Bon, il faudrait qu'il y ait la musique aussi, il y a la bande son qui aide.
La musique de Phil Glass.
Voilà, c'est ça. Oui. Mais un film peut produire aussi cet effet de surprise, cet effet de bouleversement.
Certaines scènes, oui, bien sûr, mais accompagnées de musique souvent.
Emmanuel Bigand, je rappelle que vous êtes chercheur en psychologie cognitive au CNRS.
Oui, la comparaison avec les autres arts, elle est passionnante. Je crois qu'il y a une spécificité de la musique, c'est qu'elle n'attend pas l'âge pour faire ses effets, ce qui est quand même un tout petit peu différent des autres formes d'art. Je vous donne juste un exemple. J'ai un petit garçon qui a un an et des poussières qui écoute à la radio une chanson magnétique d'un groupe panache que je connaissais pas du tout. Il a le coup de foudre, il a un an et demi et il se met à chanter le refrain. Ça, on aura du mal à l'avoir avec d'autres formes d'expression. Et c'est peut-être ce côté-là universel de la musique, dans le sens que ça commence très tôt, ça finit très tard. Quand vous travaillez avec des personnes très âgées qui ont eu des atteintes cérébrales très violentes, la musique, leur chanter du Charles Trenet, je pense que c'est plus efficace que de leur faire voir d'autres choses. Ça parle beaucoup plus fondamentalement. Donc il y a quand même un pouvoir un peu spécifique de la musique. Alors évidemment, chez l'adulte, on a ça pour les autres formes d'art, mais sur le lifespan, comme on dit en psychologie, sur toute la vie, c'est quand même la musique qui reste la plus présente.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter.
Alors, Bertrand Dical, bientôt le temps des grandes vacances, où l'on écoute peut-être plus de musique que le reste de l'année. Et bien souvent, les plus beaux souvenirs musicaux sont liés à cette période de l'année.
Alors, il se passe deux choses pendant l'été, pendant les vacances. C'est-à-dire que d'abord, on a un peu plus de temps. Donc on se dit, tiens, je vais finir d'écouter le coffret Barbara, et on prend le disque des inédits, et là on découvre une chanson totalement crépusculaire, enregistrée sur un magnétophone à Bruxelles en 59, et là on est très très loin de l'été. Et puis il y a ce qui est au sens propre l'été, c'est-à-dire des vacances, où on est en tongs et en short ridicule, et on écoute sur une sono assez
Moi non plus.
Moi jamais. Et on écoute sur une sono médiocre, des tubes du moment. Et là, c'est là où on parlait de cette espèce de distorsion entre une culture low, c'est-à-dire une culture parfois médiocre, de la variété, etc., et l'effet que ça peut produire. Alors, c'est sûr qu'il est difficile de trouver dans un tube de la SketchUp ou dans un morceau de Kuduro un message pour toute notre vie, mais ça va être aussi des excellentes madeleines du futur. Et c'est pour ça d'ailleurs que les tubes de l'été, si on regarde commercialement ce que c'est des chansons qu'on a écoutées pendant l'été mais qu'on a achetées pendant l'automne. C'est ce qui fait un tube de l'été, c'est qu'on continue à l'écouter parce que il transporte avec eux un morceau de l'été.
Mishka Sayas, les tubes de l'été, ce sont des madeleines du futur.
Est-ce que Bertrand Dical, est-ce que vous vous rappelez une chanson des Charlots, Cet été, c'était toi?
Oui.
T'es plus là en automne, ça m'étonne.
Nous autour de la table, on n'était pas nés.
Immortel, non?
Avec Marianne Chaillon, on n'était pas nés.
Ça me revient.
Mais les tubes de l'été, ce sont les madeleines du futur.
Oh, je sais pas. De toute façon, les tubes de l'été. De toute façon, il y a des. Qu'est-ce que moi j'ai tout découvert en été, même des choses sinistres. Alors franchement, vous savez d'ailleurs souvent. Moi, écoutez, j'ai un souvenir, c'est que j'ai découvert le deuxième album de Joy Division qui est paru quelques mois après le suicide du chanteur. Bon, le contexte n'était pas très gai et c'était en plein mois d'août. Et j'ai écouté sans arrêter la deuxième phase qui est crépusculaire, qui est sinistre et qui en même temps m'apportait un bien-être alors qu'il faisait 35 degrés dans Paris, que j'avais tiré les rideaux et que j'étais dans un état de dépression absolue. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, c'était mon tube de l'été. Donc vous voyez, je suis peut-être un peu différent des autres.
Merci beaucoup Emmanuel Bigand d'être intervenu dans l'émission. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Oh, quelle voix enjouée Chantal. Quelle voix enjouée. Alors, voilà. Dites, que vous
j'écoute
inspire notre sujet.
Des belles chansons françaises parce que je trouve qu'on n'en entend plus assez à la radio. Voilà.
Alors, ça c'est dit. Alors, vous êtes né en 1941.
Voilà, quelles sont les 41. Donc, un jour, j'étais à une kermesse avec mes parents. J'avais 5 ans. Et donc, comme j'étais très agitée et puis que je parlais beaucoup, on me tend un micro, on me dit, ma petite fille, elle va nous chanter une chanson. Et on pensait à une comptine, bien sûr. Et moi, j'entame le petit vin blanc. Et mes parents avaient une honte, parce que c'était une chanson pour adultes, et à l'époque, on faisait une grande différence avec les adultes et les enfants, moins maintenant, évidemment. Et j'ai chanté à le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. C'était sur les bals populaires, cette chanson. Avec, on parlait de la beauté des filles et tout. Et donc, cette chanson, ça me poursuit. Et j'ai cherché dans les chansons où on parlait du petit vin blanc. Brel en parle. Il dit, et ton cœur et mon cœur sont repeints au vin blanc au printemps. Et on ne peut pas parler du vin rouge parce que c'est pas poétique. Qu'est-ce qui rime avec le vin rouge? Mon rouge, c'est pas joli à l'oreille, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Chantal, pour votre joli témoignage. Et vous avez un beau brin de voix, hein, Chantal. Il faut continuer
merci,
comme
merci.
Ça.
Je l'ai gardé, ma voix. J'ai jamais fumé aussi.
Alors, on a beaucoup de messages sur notre page Facebook. Chaque fois que j'entends Sound of Silence de Simon et Garfunkel, je me revois dans la R16 de mes parents dans les années 80. J'ai vu le film R à 15 ans et j'ai pris une grosse claque. Depuis, chaque fois que j'écoute les chansons du film, j'ai de nouveau 15 ans et ça me met une pêche incroyable. Et puis la chanson, nous dit Jacqueline, qui m'a marqué et reste à jamais présente, La bicyclette, chantée par Montand, un copier-coller de mes vacances de préadolescente. Serge, interprété Si tu t'en vas.
Les premiers, c'était les 45 tours.
Grand bien vous fasse.
À ce moment-là, c'est les 33 tours. Hein. Les cassettes, les CD n'existent pas.
Sur France Inter.
10h46, et ce matin, on s'intéresse à toutes ces chansons qui accompagnent nos vies avec le journaliste Bertrand Dical, la professeure de philosophie Marianne Chaillant et avec le journaliste Mishka Assayas. Alors, Bertrand Dical, Marianne Chaillant, dans chacun de vos deux ouvrages, un chapitre consacré au bonheur. Les chansons qui sont souvent associées à des moments de bonheur, de joie, de plénitude, d'ataraxie. Bertrand Dical.
Oui, c'est vrai que le bonheur, c'est assez compliqué à raconter en chanson. La chanson qui cavalcade, qui saute dans les champs, qui cueille les fleurs.
Pourquoi ? Parce qu'on tombe vite dans le kitsch.
Parce qu'on tombe dans le cliché, et puis parce qu'on est dans le ton sur ton. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de chansons gays enjouées qui, alors c'est une tendance lourde dans certaines cultures, sont souvent à contrario. C'est-à-dire que par exemple dans le zouk. La gloire mondiale de Kassav s'est faite avec des chansons, avec des zoukchirés, comme on dit aux Antilles, des chansons extrêmement rapides, extrêmement dansantes. Tous les Occidentaux sautaient les mains en l'air, alors que c'était des chansons avec un contenu politique particulièrement noirâtre et particulièrement sombre. Alors, dans la musique en France, c'est pas le cas. Quand on fait cavalcader un accordéon en majeur sur les fiancés d'Auvergne, par exemple. Là, on nous raconte le bonheur, et c'est à la limite nous, notre expérience à nous, qui va y mettre notre bonheur à nous. C'est vrai que, paradoxalement, c'est souvent des chansons qui sont moins universelles que les chansons de la déprime, de la rupture ou de la tristesse. Et beaucoup de chansons nous racontent à quel point le bonheur est trompeur. Et c'est par exemple une des obsessions de Léo Ferré. Par exemple, il avait fait cette chanson qui s'appelle 20 ans. Pour tout bagage, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, et le bonheur est toujours en retard. Et ça nous dit, 20 ans, on croit que c'est l'âge du bonheur. Et il fait une musique plutôt gaie pour nous dire que, ben non, c'est pas le bonheur.
Marianne Chaillon.
Moi, j'ai l'impression que les chansons, et y compris les chansons de variété, j'ai l'impression qu'on a peu parlé vraiment des chansons les plus banales. On a quand même parlé de Ferré, de Brassens. Mais pourquoi pas France Gall ?
À propos de France Gall, voilà. Vous avez choisi, Marianne Chaillant, quelques chansons en lien avec la recherche du bonheur, comme... Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Marianne Chaillant, pourquoi vous avez choisi Résiste ?
Résiste, parmi d'autres chansons de variété, je trouve qu'elle... Elle ne se contente pas, d'ailleurs elle ne raconte pas le bonheur, elle interroge les conditions du bonheur, les conditions de possibilité du bonheur, comme d'autres chansons, comme Starmania, interroge le contenu dans la chanson « J'aurais voulu être un artiste », on se demande au fond à quoi ça tient le bonheur. Avec France Gall, c'est pas forcément évident, mais Michel Berger, qui je crois a fait des études de philosophie, nous montre que la plupart d'entre nous, finalement, on se croit singulier, on croit avoir nos goûts, on croit aimer telle chanson, parce que c'est notre goût propre, et en fait on est pris dans une sorte de dictature du on, dans une culture moyenne. Nous sommes dans une existence inauthentique. Et dans cette chanson, Michel Berger et France Gall, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous disent, au fond, si tu veux te rendre heureux, commence par quitter cette existence inauthentique, cette impropriété de ta vie. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, alors il faut résister, il faut se réemparer de ta liberté pour faire tes propres choix.
Et Marianne Chaillant, que nous dit cette chanson de Morane des millions de fois sur la question du bonheur ?
Alors, Morane, cette voix sublime, j'ai pleuré à sa mort. Et moi, cette chanson, elle est dans mon livre. C'est un texte de Jean-Jacques Goldman, parce qu'il me semble qu'elle parle d'un grand tube de la philosophie, parce qu'en philosophie aussi, il y a des tubes. Et c'est un tube de Nietzsche qui s'appelle l'éternel retour. Alors, je vous soumets à ce tube. Si ce soir un démon vous attendait, vos auditeurs aussi, si ce soir un démon vous attendait, vous disiez votre vie, telle que vous l'avez vécue, du premier jour de votre vie jusqu'à ce jour, vous allez la revivre à l'identique, sans rien pouvoir changer, non pas une fois, mais des millions de fois, comme dit Morane. Est-ce que ça serait pour vous une terrible nouvelle ? Vraiment, ça serait terrifiant, parce que ça veut dire que vous allez revivre tous vos moments de tristesse, vos deuils, vos ruptures, tout ça. Ou est-ce que vous, au fond, vous diriez, et pourquoi pas ? Eh bien, soit. De ma vie, je prends tout. Je prends la joie, mais je prends aussi les brûlures. Je prends tout et je le veux des millions de fois. Ce que fait Morane dans cette chanson, on n'a pas écouté beaucoup les paroles, mais ce qu'elle dit, au fond, c'est que de la vie, elle ne veut rien retrancher. Elle prend tout de la vie, l'existence dans toutes ses dimensions. Et Nietzsche nous dit, voyez ça, c'est le test pour savoir si vous êtes ce qu'il appelle un homme fort, c'est-à-dire si vous êtes capable d'être heureux. Pour être heureux, il faut être capable de regarder son existence sans rien vouloir en retrancher. C'est pas évident, mais finalement, c'est ce que Morane a fait dans cette chanson. Foule sentimentale, on a soif d'idéal.
Alors Marianne Chaillon, vous avez également choisi Fougue Sentimentale d'Alain Souchon. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur notre quête de bonheur ?
Alors, bon, Alain Souchon, il nous fait beaucoup philosopher, hein. C'est un chanteur que j'adore. Et dans cette chanson, on revient vers Heidegger. Vraiment, c'est magnifique. Quand je l'ai écouté, je me suis demandé si Alain Souchon avait lu Être et Temps. Et s'il ne l'a pas lu, c'est encore plus beau parce que, qu'est-ce qu'il dit ? On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. Alors déjà, il y a une définition du concept de bonheur, comme la possession d'un certain nombre de biens matériels. Et il dit, c'est pas du tout ça. Il nous dit, en fait, chacun d'entre nous aspire, et c'est bien normal, d'avoir sa propre existence, d'être un sujet, d'être l'auteur. Et finalement, il dit, mais on nous prend dans ce que Heidegger appelle une dictature du « on ». C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et France Gall, c'est la réponse à la foule sentimentale d'Alain Souchon.
Bertrand Dicale, vous l'aviez vu sous l'angle heideggerien, cette foule sentimentale d'Alain Souchon ?
Non, mais c'est vrai que c'est une chanson qui a une profondeur vertigineuse. Quand il dit « on nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lussulitzer », ok, il y a le jeu de mots, il y a la méchanceté envers, cette petite méchanceté ironique envers deux personnalités de l'actualité qui à l'époque sont d'une présence étouffante dans les médias, mais c'est réellement un constat sociologique, historique, extrêmement profond. Et c'est ça aussi que fait la chanson populaire, c'est qu'elle donne des outils à l'historien qui viendra 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt, mais c'est vraiment de la sociologie, c'est vraiment de la philosophie immédiate.
L'idée, l'envie, c'est votre choix, Marianne Chaillon.
Oui, Johnny, en fait, c'est Rousseau. Hein, ça saute pas aux yeux, mais en fait, quand on écoute le texte aussi, dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau nous soumet ce paradoxe, finalement, c'est qu'un désir inassouvi est plus souhaitable qu'un désir assouvi. C'est une idée étonnante. C'est l'idée de Rousseau et c'est l'idée de Goldman et de Johnny.
Mishka Sayas, votre grand copain, ami Bono, hein, le leader de U2, ouais. a témoigné sur Johnny Hallyday au moment de sa mort. Hein.
Oui, parce qu'ils étaient voisins dans le Midi. Et puis, en fait, c'est très curieux parce qu'il y a presque une ressemblance physique qui s'est produite à la fin de la vie de Johnny avec Bono. Ouais, c'est...
Bertrand Dicale.
Ce qui est intéressant avec l'envie, et c'est pour le coup une chanson à double fond, ce que dit Marianne est tout à fait vrai sur la chanson. Mais ce qui est passionnant aussi avec cette chanson, c'est que c'est une chanson de 86 dont on a découvert à la mort de Johnny en 2017 que c'était une des chansons de Johnny préférées des Français. Alors qu'elle n'est pas dans un certain nombre de compiles, elle n'apparaissait pas comme ça. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en 2017, les fans de Johnny, les Français en général, disent « Notre chanson la plus marquante, c'est cette chanson qui dit « Donnez-moi l'envie d'avoir envie ». Ça ressemble beaucoup à la France de 2017, avec une chanson qui a, à l'époque, déjà 30 ans.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Alors Marianne Chaillon, Formidable de Stromae, permet d'envisager l'idée que le bonheur n'existe pas.
Oui. Quand j'ai écouté cette chanson, encore une fois, je me suis dit, décidément, il y a des pépites de philosophie dans la chanson de Variété, parce que là, c'est Schopenhauer, pour le coup, qui lui aussi est l'auteur d'un grand tube, qui est cette phrase terrible que je soumets à vos auditeurs, « La vie est comme un pendule qui oscille de la souffrance à l'ennui ». C'est pas très joyeux. Mais que nous dit Stromae, sinon, la même chose. C'est-à-dire que tout formidable que vous connaîtrez dans votre existence, ces moments de joie que vous rappeliez, eh bien, hélas, maintenant, avec le recul, ils sont devenus formidables. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous arriver de bon dans l'existence, hélas, nous sera emporter, même l'amour qu'il envisage hein, dans la chanson, même l'amour, faut pas trop avoir d'illusions, quoi.
Mishka Sayas, je suis sûr que vous, quand vous êtes allongé dans votre appartement, vous lisez du Schopenhauer.
En écoutant
du Joy Division.
Ça m'est arrivé, peut-être un peu moins de nos jours, mais je sais pas, moi, de toute façon, la seule perspective de bonheur qui me parle, c'est vraiment l'idée de souffrir le moins possible et d'aimer le plus possible. Alors, voilà.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous avez un souvenir rigolo avec une chanson de Lily Allen.
Absolument. Et justement, en écoutant Inter et Lily Allen qui vient de passer, mon fils, qui avait 4-5 ans, adorait Fuck You.
Oui.
Voilà. Donc, j'étais bien embêtée quand il allait à l'école. Je voulais pas qu'il chante Fuck You devant la maîtresse. Donc, on l'a réinterprété en Muck You. Et du coup, à chaque fois que j'entends Lily Allen, je pense à mon garçon qui a maintenant 12 ans et qui connaît très bien le sens de Fuck You. Et voilà, ben, c'était appliqué à votre thème. En écoutant Lily Allen, en écoutant Inter, j'ai repensé à mon fils qui est au collège ce matin.
Merci beaucoup Isabelle pour votre joli témoignage. Alors j'accueille en studio Jean, jeune stagiaire de seconde dans l'émission, musicien dans un groupe de rock, hein, ça va faire plaisir à Mishka Assayas.
Oui.
Et vous jouez de quoi dans votre...
Du Green Day, The Doors, du rock anglais.
C'est bien, hein? Bon, alors quel est le souvenir, la musique qui te marque dans ta jeune vie, là, qui t'a marqué
Moi, c'est une chanson de David Bowie, Allo Space Boy.
T'en écoutes un petit extrait.
Allo Space Boy.
Alors Jean, pourquoi ce morceau est aussi important dans ta vie ?
Mon père, en fait, il écoute énormément de rock anglais. Et un jour, bah, il a mis David Bowie, cet album. Et la chanson est arrivée. Et j'ai fait waouh. Et j'ai pu rien faire. J'ai juste écouté la chanson pendant 4-5 minutes et j'étais sous le choc.
Mishka Assayas.
Oui, c'est un choix qui est rare. Mais,
à 15 ans.
Ouais. Mais en fait, c'est souvent comme ça. C'est des hasards complètement improbables. En fait, on entend un album et puis on flash sur la chanson la moins connue et qui vous parle le plus. C'est des mystères comme ça.
Philippine, collaboratrice de l'émission, la chanson la plus importante de ta vie en ce moment ?
C'est I'm Gonna Be, la reprise de Imagine Dragons. Et une reprise qu'ils ont fait dans un concert et je la trouve vraiment géniale.
Pourquoi elle est aussi importante dans ta vie?
Bah parce que en fait ça c'est la chanson qu'on écoute beaucoup avec mon fiancé depuis qu'on s'est fiancé, on l'écoute tout le temps et c'est notre chanson à nous depuis ce moment-là.
On écoute un petit peu Imagine Dragons.
Mais oui, mais c'est une chanson écossaise à l'origine, c'est les Proclaimers, c'était à la fin des années 80, c'était toute ma jeunesse, c'est une reprise, ouais. C'est deux frères, deux jumeaux, les frères Reed, ouais, c'est vachement bien.
Merci Philippine et Jean d'avoir témoigné, merci beaucoup Mishka Assayas. Very Good Trip, le rock au pays des rêves, c'est publié chez France Inter et Le Mot et le Reste, et ce soir dans Very Good Trip à 21h.
Oui, The Punk Reggae.
Super, on va écouter. Marianne Chaillant, la playlist des philosophes est toujours disponible en librairie. Bertrand Dical, la BO de votre vie vient de paraître chez First. Merci à tous. Demain, on s'intéresse aux bienfaits que peuvent nous procurer les chiens, ce que les chiens peuvent nous apprendre de la vie, avec les vétérinaires Hélène Gâteau, Yves Layani et avec le philosophe Marc Alizard. Racontez-nous ce que vous apportent les labradors, caniches, golden retrievers, bergers belges et autres épagneuls bretons. 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, Michel Bézikian.